France Culture.
C'est une maladie qui touche plus de 10 millions de personnes dans notre pays. Une maladie qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, frappera 30% de la population française en 2030. Cette maladie, et c'en est une, c'est l'obésité. Une pathologie difficile à combattre, tant ses causes sont multiples, difficile à vivre, tant sa stigmatisation est vive, difficile à contrer collectivement, tant la prise de conscience est lente. Alors l'obésité est-il un problème de santé comme un autre? Pour en discuter, trois invités ce soir. Anne-Sophie Joly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente et fondatrice du CNAO, le collectif national des associations d'obèses, qui vient d'organiser les états généraux de l'obésité et de rendre un rapport sur la discrimination et la stigmatisation de l'obésité. À vos côtés, Jean-Michel Aupert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de nutrition et chef de service de nutrition à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Et avec nous, à distance, Camille Canaple, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin coordinatrice du REPOP LIRA, un réseau ville-hôpital dans la région lyonnaise de prise en charge d'obésité pédiatrique. Merci à tous les trois d'être présents ce soir dans Question du soir.
J'ai eu surtout un gros problème de burn-out avec hypothyroïdie. Et donc tout ça, ça a été caché par les médicaments. Et en fait, je suis monté à un poids assez conséquent. J'ai pris quasiment 70 à 80 kilos en moins de 6 mois.
Pour ma part, ouais, pour moi, le poids, ça a été une carapace, une protection. Je me suis blindé, je me suis protégé d'éléments extérieurs, de choses qui m'agressaient, qui me faisaient du mal et qui me mettaient en souffrance, en fait.
Jusqu'à vivre des choses très difficiles, hein, même des remarques, des blessantes, etc., de l'entourage. Du coup, c'est dur d'avancer avec cette image.
Et puis les kilos ont commencé à venir petit à petit. D'abord 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, jusqu'à faire environ 120 kilos.
Quand j'ai vu que je pouvais plus marcher, quand il fallait prendre le bus, chez ma sœur, il y a 150 têtes. Je pouvais pas. J'ai dit, faut que je fasse cette chose.
Alors on va parler de chiffres, de statistiques, de tendances bien sûr, mais je voudrais d'abord que l'on parle de mots parce qu'il est difficile souvent de parler d'obésité pour les personnes concernées bien sûr, mais collectivement c'est un sujet compliqué souvent à aborder. Alors quel mot, Anne-Sophie Joly, faut-il utiliser pour parler d'obésité et d'une manière générale, quelles précautions faut-il prendre ?
Alors c'est une précaution qui se porte pas que sur les personnes qui souffrent d'obésité. Enfin, on n'est pas une pathologie. On est une personne qui porte une pathologie en fait. Ça peut être un peu de la sémantique, mais c'est à peu près ça en fait. C'est que l'obésité ne nous définit pas. Donc en fait, on est des individus qui souffrons d'une pathologie qui, je l'espère, sera un jour reconnue très prochainement par la France, qui n'est toujours pas le cas. Elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1997. Elle est reconnue au Portugal, en Italie, en Suisse et en Allemagne. Et en France, on fait beaucoup de choses, mais pour l'instant, elle est toujours pas reconnue. Et en fait, on a besoin de cette reconnaissance pour, en fait, décliner tout un tas de choses derrière, alors que la France est l'un des pays les plus acteurs, en fait, dans le domaine et dans le milieu. Mais on aura l'occasion d'en parler, hein. On a le Nutri-Score et on a tout un tas de choses, en fait.
On va revenir sur ces dispositifs, mais je voudrais qu'on reste un instant justement sur le choix des mots avec vous, Jean-Michel Aupert. Lorsque un patient vient vous voir, qu'est-ce que vous lui dites? Quel diagnostic vous posez pour expliquer justement qu'une personne est obèse? Quels mots vous employez vous-même?
Alors, je pense qu'effectivement, on emploie les mots avec beaucoup de précautions aujourd'hui. Et donc, on parle de personnes en situation d'obésité. Ça, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent. Et donc, on essaye de faire une distinction quand on ajoute ce qualificatif d'obésité, de bien distinguer la personne et la situation. Et je pense que ça, c'est très important. Et donc, les patients qui viennent nous voir pour être orientés ou trouver des solutions, la première chose, c'est de les soigner comme tous les autres patients. Je dirais que c'est ça la priorité.
Camille Canaple, même question, avec cette particularité que vous accueillez vous-même des enfants et que le sujet est peut-être encore plus dur, tant la stigmatisation à l'école, on le devine, est vive.
Oui, alors chez l'enfant, c'est vrai que on a tendance aussi à être assez précautionneux. ce qu'on essaie de faire, c'est aussi de prendre notre temps pour parler de tout ça, utiliser certains termes, ne pas cristalliser les échanges autour d'un terme ou d'un mot. On a l'habitude de reprendre les termes utilisés par la famille, par les enfants, par les jeunes, et puis de parler aussi de la santé de manière globale et de ce que les enfants, les adolescents peuvent vivre ou peuvent ressentir. C'est pas qu'on veut pas appeler un chat, c'est juste que il y a une petite particularité quand même chez l'enfant, c'est que l'excès de poids au départ ne se voit pas forcément. Nous, on voit une tendance en fait, mais visuellement, c'est vrai que les parents ne peuvent pas forcément se rendre compte de l'évolution. Et puis bon, chez le jeune a envie aussi qu'on le laisse un peu tranquille par rapport à ça. Anne-Sophie. Donc on adapte.
Anne-Sophie Joly, Jean-Michel Aupert a employé une expression, celle d'en situation d'obésité, de personne en situation d'obésité. C'est une expression qui laisse entendre, si je l'entends bien, que la situation aussi est transitoire. Alors est-ce qu'on peut guérir de l'obésité? Qu'est-ce que cela signifie, guérir de l'obésité? Je vous vois sourire, même rigoler.
Oui, parce que en fait, c'est plus une question pour le professeur Aupert, mais je pense que alors c'est là toute la complexité, c'est que l'obésité est chronique. On est dans la chronicité. Et en fait, une fois que vous rentrez dans cette problématique-là, c'est comment faire pour, j'ai envie de dire, stopper cette progression. Allez voir des professionnels de santé qui connaissent le sujet. Faites pas ça tout seul, faites pas ça avec des publicités à la télé ou je ne sais pas trop où. Enfin, je veux dire, c'est un véritable problème de santé qui va... Enfin, l'obésité est facteur de 18 pathologies associées. Le Covid était la 19e. Il y a des traumas physiques et psychologiques à ça. Donc, soyez bienveillants vis-à-vis de vous, même si effectivement on a encore énormément de freins dans la société, où les gens vont être un peu invectivants en vous disant « il suffit, il y a qu'à Faucon ». Mais en attendant, ils vivent pas ce qu'on vit et ils peuvent pas comprendre tant qu'ils ne le vivent pas. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de bienveillance et surtout aller voir des professionnels de santé calibrés.
Jean-Michel Aupert, vous êtes parmi les personnes calibrées, mais justement sur cette expression dans situation d'obésité, je reviens sur cette notion de guérison. Peut-on guérir de l'obésité malgré la chronicité de cette pathologie?
Alors ça, c'est vraiment une question très importante qui nous renvoie à l'objectif en fait de la prise en charge et aux critères de ce qu'on pourrait appeler le succès de la prise en charge. Ça serait ça, la guérison. Et donc, on a de plus en plus tendance à voir l'obésité comme une porte d'entrée. Donc, c'est une porte d'entrée de très nombreuses pathologies, de très nombreuses difficultés, à la fois physiques, mais aussi psychologiques et sociales. Et donc, la prise en charge, elle va s'adresser à toutes ces composantes. Et donc, traiter les pathologies associées, ça peut être un succès. Améliorer la situation psychologique et le comportement alimentaire, ça peut être un succès. Améliorer la qualité de vie, c'est un succès. Donc, vous voyez, là, je vous ai pas parlé du poids jusqu'à maintenant. Mmh. Et donc, le poids, c'est un des éléments, effectivement, du succès. Mais je pense qu'il faut vraiment voir les choses en termes d'objectifs. Et ces objectifs, ils vont être variables en fonction des situations, en fonction des patients. Pour l'un, ça va être plutôt de traiter les maladies. Pour l'autre, ça va être plutôt de favoriser l'activité physique, le lien social, etc. Et donc, le succès, je pense qu'il va dépendre un peu des différentes situations, justement.
Si l'on parle, Camille Canap, justement, d'objectifs pour tenter de comprendre ce que peut être la guérison dans le champ de l'obésité, est-ce que le but affiché lorsque vous rencontrez des enfants, des parents, lorsque vous les accompagnez, est-ce que c'est la guérison d'abord et avant tout d'une façon presque inconditionnelle ou c'est au fond d'abord d'accepter que l'on est obèse même d'une manière transitoire?
Les familles le comprennent très bien. L'objectif, il est avant tout de faire en sorte que l'enfant puisse grandir sans trop grossir et du coup de ralentir la progression. On est vraiment, notre impact, il cherche à éviter la progression, mais pas que la progression de l'excès de poids, la progression aussi de la dégradation de la santé physique et mentale de l'enfant. Et dans nos prises en charge, quand un enfant se sent mieux dans sa peau, s'est fait de nouveaux copains, changé des habitudes qui deviennent plus favorables à la santé, et pas que la sienne, hein, celle de toute la famille, qu'il se sent bien dans ses baskets, qu'il a une... Vraiment, qu'on voit un impact sur la qualité de vie, pour nous, ce sont des effets vraiment très positifs.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'une personne obèse qui raconte son quotidien à travers un témoignage diffusé dans le grand reportage de France Culture, c'était le 6 octobre 2023.
J'ai perdu presque 100 kilos, j'étais à 245. C'était une renaissance.
Totalement. Je n'avais plus de vie. J'étais alitée. Donc, je me faisais faire ma toilette, je me faisais faire mes courses, mon ménage, on m'habillait. Enfin, j'étais un légume, en fait. Et c'est vrai que le fait de faire cette opération-là et de perdre du poids, ben, m'ont clairement sauvé la vie, en fait. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte que quand on est obèse, la difficulté des choses simples de la vie, en fait. Au-delà du regard des gens, au-delà des sorties, entre guillemets, on va dire publiques, théâtre, cinéma, le bus, les trucs simples, rien n'est adapté à l'obèse. Absolument rien.
Vous l'avez dit, Anne-Sophie Joly, un peu plus tôt, hein, l'obésité, c'est aussi, c'est souvent une souffrance. Je voudrais rappeler ces chiffres qui m'ont stupéfié en préparant cette émission. Hein. Plus de 10 millions de personnes en France souffrent aujourd'hui de l'obésité et de ses pathologies associées. Selon le Lancet, hein, une célèbre revue médicale et scientifique, l'obésité, c'est une épidémie mondiale inédite de surpoids qui touchera 6 adultes sur 10 et un enfant et un adolescent sur 3 d'ici 2050 dans le monde. Et c'est l'un, je cite, l'un des plus grands défis sanitaires du 21e siècle. Anne-Sophie Joly, comment est-ce qu'on explique cette tendance à la hausse, cette explosion même de cette pathologie?
Alors, on va compléter tous les deux, hein, on va faire un match avec, avec le professeur.
On
est avec les auditeurs, on est à la maison là, donc on peut se parler entre nous. En fait, il y a plusieurs choses, hein. Il y a une partie, j'ai envie de dire, génétique. On est dans un siècle ou dans des années où effectivement on est de plus en plus sédentaire, hein, c'est aussi un problème. Moi j'ai une cinquantaine d'années. Si vous passiez l'heure du repas lorsque vous aviez 10 ans, bah c'était mort, hein, il fallait attendre le repas d'après, parce qu'il n'y avait rien de dispo pour aller manger je ne sais pas quoi, je ne sais pas où. Donc ça aussi, c'est maintenant vous avez accès à la nourriture n'importe quand, du jour et de la nuit, quasiment. Et puis, on a aussi une modification des recettes alimentaires, où là, effectivement, on a de plus en plus de perturbateurs endocriniens, de sucre, de sel, de graisses saturées. Et puis, on a des aliments qui sont pauvres en... Alors, j'essaie de trouver le terme, enfin, en calories utiles pour le corps. C'est-à-dire qu'on a plus des bombes de sucre ou de gras. Mais enfin, à un moment donné, enfin, le corps, il a besoin de plein de choses. Et si, effectivement, il y a le Nutri-Score qui est en place, et on a besoin encore de verbalisation et de simplification des messages sanitaires, c'est lorsqu'on dit... quand le PNNS, donc le Plan National Nutrition Santé, qui est présidé par le professeur Daniel Nizri, quand on dit manger 5 fruits et légumes, c'est il faut une quantité de ces fruits et légumes, que c'est pas 5 cerises, hein, on est bien d'accord. Et que de l'autre côté, c'est que l'utilisation de fait de manger ces fruits et légumes vont apporter en fait des nutriments utiles à votre organisme, à faire fonctionner correctement votre microbiote, qui va éloigner les pathologies chroniques, qui va vous faire que vous allez rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et en fait, c'est une espèce de recette. En fait, il faut une partie de ces aliments-là. Et il faut aussi bouger le corps parce que vous allez brûler, que le muscle, effectivement, qui pèse plus lourd que la graisse, mais qui est absolument nécessaire et utile, va faire qu'effectivement, vous allez mettre en route un mécanisme bienveillant pour votre santé physique et mentale. Et effectivement, l'obésité, ce n'est pas que un tissu adipeux inflammatoire, ce n'est pas qu'une taille de pantalon plus grand, c'est aussi le regard sociétal que vous avez sur vous, qui est un véritable traumatisme. Et là, les gens ne le comprennent pas encore dans l'intégralité, en fait.
Jean-Michel Aupert, je voudrais que le match se poursuive avec vous, justement, pour tenter de comprendre cette tendance à la hausse et qu'on batte en brèche peut-être tout de suite une fausse idée selon laquelle l'obésité, souvent, ce serait le fruit d'un manque de volonté. Ce serait simplement des personnes peut-être trop gourmandes qui aimeraient spécialement manger. L'obésité, c'est loin d'être cela.
Alors effectivement, comme l'a dit Anne-Sophie Joly, c'est une intrication de très nombreux facteurs. Donc il y a des facteurs environnementaux.
600 facteurs, je crois. 600 facteurs possibles pour tenter de comprendre
cette
maladie.
Alors on peut essayer de simplifier pour faire des grands groupes de facteurs.
Long,
donc voilà, il y a de très très nombreux facteurs qui vont interagir. Donc des facteurs, on pourrait dire, trois grands groupes, quoi. Des facteurs environnementaux et sociétaux, des facteurs comportementaux, et puis parfois des facteurs biologiques. Alors, dans certains cas assez rares, des facteurs génétiques.
Alors, commençons par le premier. Environnementaux, c'est par exemple l'urbanisation des modes de vie et la sédentarisation des individus?
Alors, moi, je dis, cet aspect-là est très important.
Mm-hmm. Mais c'est pas l'essentiel.
Je mettrai d'abord, il faut mettre d'abord quand même les systèmes alimentaires. Donc ça, je pense que les systèmes alimentaires, donc ça va de la production à la consommation, avec la transformation, la reformulation, exactement, la distribution, mm-hmm, et ensuite la consommation. Ça, c'est vraiment un des déterminants absolument majeurs de nos consommations et donc peut-être d'une surconsommation qui va amener à l'obésité. Et puis, bien sûr, ça se fait dans un contexte. Donc là, tous ces éléments sont vraiment importants. Et donc, si on parle des politiques publiques pour essayer de prévenir ou de limiter l'augmentation de l'obésité, on va s'intéresser à tous ces éléments. Et puis effectivement, comme vous le dites, il y a des éléments de notre espace de vie, de l'environnement urbain dans lequel on vit en grande majorité, qui vont faire que notre activité physique va être limitée ou qu'on va être plus longtemps assis, donc la sédentarité. Et donc c'est pas forcément tellement la sédentarité en elle-même, mais c'est le fait que quand on est sédentaire, quand on est assis très longtemps, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, on va être plus facilement en bilan positif et donc on va gagner du poids. Et donc c'est une intrication de tous ces facteurs. Et puis bien sûr, il y a les facteurs socio-économiques qui sont absolument majeurs. Et donc, on sait que l'écart, en plus, entre les plus favorisés et les moins favorisés en termes de prévalence de l'obésité s'accroît au cours du temps. Et donc, ça, c'est un des éléments de préoccupation.
Pour le dire d'une manière franche et directe, plus on est pauvre aujourd'hui, en France, partout, et plus on a des chances d'être obèse. Ouais.
Exactement. Donc, la prévalence de la fréquence de l'obésité aujourd'hui en France, elle est environ de 17% chez les adultes. Hommes et femmes, c'est à peu près la même chose en France. Mais on sait qu'elle est plus élevée chez ceux qui sont socio-économiquement défavorisés. Et donc, cette prévalence a augmenté. Elle a été multipliée par deux au cours des 20 dernières années. Donc, ce qui est quelque chose d'important.
En France?
En France, et surtout l'écart entre les plus favorisés et les moins favorisés, qui était à peu près de 4% il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui de 8%, donc cet écart s'est franchement accru. Donc il y a un accroissement de ce qu'on peut appeler le gradient social de l'obésité.
Vos propos permettent par ailleurs de battre en brèche une autre idée reçue, idée selon laquelle la France serait le bon élève dans ce domaine et l'obésité serait largement reléguée outre-Atlantique. Camille Canaple, justement, est-ce qu'il y a une singularité aussi de cette inflation des cas d'obésité concernant les enfants? Comment est-ce qu'on l'explique un peu mieux, un peu plus, s'agissant de cette population?
Anne-Sophie Joly et Jean-Michel Oppert ont déjà rapporté pas mal de facteurs, hein, de prédisposition et facteurs de risque. C'est vrai que, en fait, l'obésité se développe quand la prédisposition génétique rencontre un environnement qui n'est pas forcément favorable à la santé. Mais c'est vrai que chez les enfants, la prédisposition, alors elle est une forte hérédité, une prédisposition génétique qui est très importante, mais on peut aussi noter tous les facteurs périnataux, c'est-à-dire que finalement, un enfant qui naît, on peut déjà distinguer les enfants qui ont plus de risques de par ce qui s'est passé pendant la grossesse ou pendant les premières années de la vie. On parle beaucoup maintenant du concept des 1000 premiers jours et on sait maintenant que il est très très important à prendre en compte pour prévenir de certaines maladies chroniques et notamment de l'obésité.
Concrètement, si on en entre dans le détail, c'est quoi ces comportements durant les 1000 premiers jours, ou en tout cas ces préoccupations, ces mises en garde qui peuvent laisser entendre qu'il y aurait plus de chances, de risques, en l'occurrence, d'être frappé d'obésité?
Alors, ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont ces facteurs vont développer forcément un excès de poids, mais en tout cas, ils sont plus à risque quand, par exemple, la maman a eu un diabète gestationnel pendant la grossesse, qu'elle a pris beaucoup de poids pendant la grossesse. Le facteur le plus important, c'est le poids de la mère avant la grossesse. Et on sait aussi maintenant qu'il y a de plus en plus de jeunes adultes qui sont en excès de poids avant la conception. Donc, c'est vrai que ça nous interroge beaucoup sur l'avenir, du coup, sur les générations à venir. On voit aussi le point de naissance peut avoir un impact, hein, qu'il soit faible ou élevé. Puis après, il y a tout ce qui se passe dans les premières années de vie. Alors, on sait que, par exemple, un excès de protéines dans l'enfance peut être plutôt défavorable. J'oublie peut-être des choses. L'allaitement maternel, on sait que c'est plutôt controversé, mais en tout cas, ça aurait plutôt tendance à être favorable. Il y a vraiment un certain nombre de facteurs quand même qui impactent dès la petite enfance. L'exposition aussi aux polluants et aux perturbateurs endocriniens, bien sûr, l'épigénétique, enfin, voilà, c'est assez
Concordance de facteurs. Je voudrais vous faire entendre un autre témoignage d'une personne en situation d'obésité. Elle s'appelle Axel. Elle était interviewée dans LSD, diffusé sur France Culture, évidemment en août 2023.
Vous savez, quand vous dites autour de vous, une fois que vous avez été harcelée parce que vous êtes grosse, on vous écoute. Deux fois, on vous écoute. Trois fois, c'est vous le problème, quoi. Et sauf que moi, c'était systématique. Et je me suis même retrouvée avec des camarades de promo qui me disaient, ouais, mais peut-être que, au final, peut-être que tu devrais te rendre compte que t'es pas faite pour ce monde du travail. Et je trouvais ça, mais hyper violent et dégueulasse parce qu'ils étaient pas plus intelligents que moi. Et du coup, ben, moi, grosse, avec mes études supérieures, je suis pionne à 35 ans. Enfin, c'est la seule chose qu'on me propose, en fait.
Anne-Sophie Joly, ce qui fait peut-être le drame singulier de l'obésité, ce sont aussi ses impacts sociaux sur l'ensemble des dimensions de la vie, les loisirs, le travail, la vie avec les autres. Il faut raconter cela et expliquer cela aussi.
La considération au sens large du terme. Oui, alors je comprends très très bien ce que cette dame veut dire. C'est que en fait, il n'y a pas de respectabilité. Parce que vous ne représentez pas ce que le carcan sociétal vous demande d'être, à commencer par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous pouvez être estimé ou estimable ou aimé ou aimable si vous rentrez dans un squelette qui vous est dicté par la société. Moi, je dis toujours, on ne choisit pas d'avoir du poids, d'avoir beaucoup de poids. Ceci étant, ça fait pas de nous des sous-humains. D'où la demande expresse, je redis parce que j'ai mis une pièce dans la machine là. La demande de la reconnaissance de l'obésité comme étant une maladie. Nous, on demande également la grande cause 2026, que ce soit l'obésité. Et on veut aussi, et on le demande très fortement, un plan interministériel sur 10 ans, renouvelable comme le plan cancer, un plan obésité. Là, le colloque qu'on a fait le 3 mars était sous la tutelle du président de la République, Emmanuel Macron, avec le soutien et au ministère de la Santé. C'est-à-dire que le rapport qu'on a remis le 3 mars sur la discrimination, eh ben en fait, il est téléchargeable hein, sur le cnao.fr, il est carrément en ouverture de page. Il y a 108 recommandations. Et effectivement, sur la discrimination au travail, évidemment, c'est pas dit clairement. Quand vous faites des caméras cachées, alors là, ça devient très très drôle. Mais effectivement, moi j'ai vécu aussi le fait de me dire, bon ben voilà, 8 ans d'études, oui, mais en fait, non. On m'a même demandé sur un travail d'été, j'étais dans le 17e à l'époque, Place Pereire, pour être caissière hein, dans un supermarché. On m'a demandé, une fois j'avais rendu mon CV, hein, 8 ans d'études, si je savais lire et écrire. Donc en termes d'humiliation, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et là, en fait, je me suis dit, je la frappe pas, je l'insulte pas. Et puis je l'ai regardé, je me suis dit, écoutez, je pense que c'est peut-être vous qui avez des problèmes de lecture, parce qu'en fait, c'est marqué noir sur blanc. Donc je dis, c'est quoi qu'on comprend pas.
C'était une bonne manière de répondre.
Oui, non, mais enfin, c'est et au bout d'un moment, et ça en fait remet du trauma sur du trauma. Ça aussi le problème, c'est que on en arrive en fait à tourner en rond. On se dit, mais on essaye de sortir par tous les bouts d'une problématique de représentativité. Et on parlait tout à l'heure, effectivement, dans le petit carnet, j'ai noté, on a aussi des milieux qui sont des rues qui sont obésogènes. Le choix alimentaire, c'est une succession de fast-food. Bah là, en fait, bonjour les États-Unis, en fait, bonjour le Mexique. Donc, il faut réussir à sortir de ça, et je pense qu'on en parlera après, il faut réussir à légiférer et interministérialiser sur 10 ans.
Jean-Michel Aupert, je reviens aussi sur cette notion, au fond, de maladie au carré. Il y a évidemment la pathologie physique que vous avez décrit les uns les autres et qui crée une souffrance immense. Il y a aussi le regard social, la vie en société qui est entièrement affectée.
Alors effectivement, je pense que ce regard qu'on peut porter sur les personnes en situation d'obésité, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Donc ça veut dire voilà des mesures d'information, d'éducation. Donc c'est ce que fait par exemple, c'est ce que font les associations, voilà, comme Anne-Sophie Joly avec le CNAO, d'essayer de transformer le regard qu'on peut porter sur les personnes en situation d'obésité dans tous les secteurs de la société. Donc il y a le monde du travail, mais il y a aussi le monde de la santé.
Mais pardonnez-moi, je vous coupe, vous-même, j'allais dire, en tant que docteur, en tant que personne qui accompagne au quotidien ces personnes en situation d'obésité, comment vous leur donnez les armes pour tenter de lutter, de faire face au quotidien, dans leur quotidien, à cette stigmatisation qui prend des formes, on l'a dit, multiples et des formes constantes ?
Je pense que la première chose, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est d'accueillir les personnes comme toute personne qui a besoin d'un soin, d'une prise en charge, et donc c'est d'expliquer et de discuter, d'essayer de comprendre aussi avec les personnes comment cette situation a pu se développer, et ensuite de proposer des solutions. Parce que effectivement, dans le secteur du soin et de la prise en charge, ce qui est important, c'est de proposer des solutions. Donc ces solutions, elles peuvent porter sur le mode de vie, mais elles peuvent porter aussi sur le regard qu'on a sur soi-même et sur les autres.
Camille Canaple, on se doute bien, là encore, que pour les enfants, c'est encore plus terrible, hein, tant le regard à l'école, le regard des pères, le regard des autres élèves doit être difficile parfois.
Oui, et sans surprise, malheureusement, je vais aller dans le sens des autres invités. Hein, les moqueries, c'est la première cause de consultation, c'est le premier motif de consultation chez nous, en fait. C'est ça qui fait que, plus que le dépistage, en fait, c'est ça qui fait que les familles viennent vers nous. Et encore, parce que la plupart des enfants mettent du temps avant d'en parler aux adultes ou à leurs proches. Parce qu'en fait, souvent, on parle d'auto-stigmatisation, ils finissent par se convaincre que, ben, qu'ils sont nuls, qu'ils ne valent pas le coup, et qu'effectivement, ce que leur disent les autres, eh ben, c'est la vérité. Et ça, c'est assez... les gens ne se rendent pas compte que ça peut arriver très tôt, dès la maternelle, dès la petite enfance, l'école primaire. En fait, on a des enfants vraiment qui vivent un calvaire. On préfère prendre le plus nul en foot dans son équipe plutôt que l'enfant qui est trop gros. Et ça fait vraiment ça fait des dégâts. Les aspects psycho-affectifs sont vraiment hyper importants dans la prise en charge de l'enfant. Ça peut être vraiment des facteurs aggravants et c'est ce qu'on repère le plus, en fait, comme c'est les premiers retentissements de l'excès de poids concernent ces aspects-là. C'est vrai que je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Michel Oppert et sur le regard que peut porter aussi le monde des soignants. Et mm-hmm. C'est vrai que dans les REPOP, ça fait 20 ans hein, qu'on essaye de... notre objectif, c'est que toutes les familles puissent trouver proche de chez elles un accompagnement bienveillant. Et pour ça, en fait, on forme les professionnels, hein, les médecins, les diététiciens, les psychologues, les kinés, les infirmiers, etc. Et la formation porte sur l'obésité, mais aussi surtout sur la posture. C'est très important pour nous que la posture soit la même et qu'elle soit bienveillante et non jugeante.
Alors, à propos justement de ces soignants, de leur formation, de leur regard sur l'obésité, un témoignage, celui de la professeure Martine Laville, un extrait encore du grand reportage diffusé sur France Culture.
Malheureusement, dans la médecine, on nous apprend à soigner, on nous apprend à soigner avec des médicaments, on nous apprend à être efficace, et on nous apprend, pour finir, que ça se soigne un peu comme des maladies aiguës, les antibiotiques, les angines. Pour l'obésité, on n'est pas du tout dans ce registre, et souvent, le soignant va se sentir un peu démuni pour accompagner le patient, et parce que on met probablement pas assez l'accent dans les études médicales et paramédicales sur les aspects prévention, sur les aspects prise en charge globale. Ça fait partie des recommandations, hein, d'évoluer sur la formation. Bien sûr, des médecins nutritionnistes qu'il faudrait être plus nombreux, mais également toutes les autres spécialités médicales, les gynécologues, mais les cardiologues, etc. Tout parce que l'obésité entraînant de multiples autres pathologies, il est important que tous les spécialistes de ces autres pathologies comprennent et ne disent pas « vous avez qu'à maigrir, ça ira mieux ».
Comment pénètre Anne-Sophie Joly désormais sur le continent, sur le champ des solutions? Il faut commencer par le début. Est-ce que les professionnels de santé eux-mêmes sont bien formés dans leur diversité à cette question de l'obésité et de la prise en charge de l'obésité?
Alors, à mes yeux, non. Hein. À part peut-être à la Sorbonne Médecine, où j'étais encore hier, où j'interviens d'ailleurs dans le DU du professeur Hopper. Et hier, j'avais des étudiants en médecine en face de moi, sur lequel, effectivement, on parlait de la problématique du regard. Et je voudrais bien quand même revenir...
Quel était votre sentiment dans cette séance? Vous avez le sentiment, justement, qu'ils sont trop loin de ces sujets?
Non, ils étaient intéressés. Ils étaient intéressés. Je pense que j'ai fait une heure, mais on aurait pu faire deux, hein, sans aucun souci. Et c'est en fait c'est l'échange qui est très salvateur, parce qu'ils disent mais en fait on vous voit arriver en consultation, on ne veut pas être blessant, on ne sait pas comment aborder le sujet, etc. Et le problème de l'obésité, c'est que c'est une des pathologies qui se voit. Vous avez des personnes qui ont des statures normales, mais par contre ça ne veut pas dire qu'elles sont en bonne santé. Vous pouvez avoir une hypertension artérielle tapée au plafond, ça se voit pas et on ne va pas vous discriminer. Donc le problème, c'est que nous
nous, notre générosité amoureuse se voit, en fait. C'est un peu ça, on est un peu des marshmallows doudounants. Et par contre, je reviens en fait sur ce qu'a dit le docteur en pédiatrie. Le problème, c'est que on a aussi dans l'enfance, ça peut aussi créer des TCA, les troubles du comportement alimentaire. Nous, on a fait une très belle recommandation à la Haute Autorité de Santé sur l'anorexie, boulimie, hyperphagie. On a des enfants qui, à 9 ans, dévissent. Et là, si effectivement vous n'avez pas dans votre secteur des soignants qui peuvent être en capacité de regarder ce qui se passe et comment ça se passe.
Ils sont capables d'identifier les choses
ouais,
également.
Parce que ça peut vite tourner au drame. Et l'autre côté, c'est qu'effectivement dans les recos qu'on a donnés nous sur notre rapport, on parle aussi de la crèche. Moi, je me souviens à titre personnel, lorsque j'allais emmener mon fils à la crèche, il devait avoir moins d'un an. On était l'hiver, donc ils avaient les combinaisons là de cosmonautes chez eux. Donc je déshabille mon fils, il y avait une maman qui était à côté, et la mère, sans me regarder, me dit « parle pas bonjour, pas machin, rien ». Et elle me dit « expliquez-moi comment, vous qui êtes grosse, votre fils est mince, alors que moi je suis mince et que mon fils est gros ». Et là, je suis restée en mode arrêt sur image et je me suis dit, elle n'aime pas son fils. Elle est déjà dans la culpabilisation de ce qu'est son enfant. Et je me suis dit, elle savait pas ce que je faisais. Je me suis dit, est-ce qu'elle est en capacité de comprendre ce que je peux lui dire? Et je me suis dit, tu peux mettre de l'huile sur le feu. Je lui ai dit, à pas faire. Et je lui ai dit, je pense que votre enfant a plus besoin d'amour qu'autre chose.
Encore une belle réponse.
Camille
Canaple, vous souhaitiez réagir?
Oui, c'est très intéressant ce témoignage parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a parlé de la stigmatisation dans la société, dans le paysage des professionnels de santé, mais on n'a pas parlé de la stigmatisation intrafamiliale que nous on constate quand même très régulièrement, c'est-à-dire qu'au sein de leur propre famille, les enfants, les ados sont pointés du doigt et en fait entendent des réflexions à longueur de journée qui sont vraiment très très difficiles à vivre. Donc c'est important d'en parler parce que je pense que les personnes de la famille ne s'en rendent pas forcément compte.
Jean-Michel Lepage, je voudrais qu'on progresse sur ce sujet des solutions, comme on arrive déjà au terme de cette émission. Que peut la prévention? En matière de prévention, encore une fois, on a l'impression que là aussi, c'est un sujet multiforme. On met beaucoup de choses dans ce grand sac de la prévention. À chaque fois, c'est presque un mot magique et un mot qu'on emploie à toutes les sauces. Là, sur le sujet de l'obésité, que peut-on véritablement réaliser?
Alors, la prévention de l'obésité, elle est vraiment en amont du développement de la situation.
Donc, comme l'indique le mot prévention.
Voilà, exactement. Et donc, alors il y a la prévention qu'on appelle primaire, il y a aussi la prévention des complications quand on est déjà en situation d'obésité. Donc ça, c'est un autre champ. Mais la prévention de l'obésité, elle s'appuie sur des mesures qui sont dans le champ alimentaire, aussi dans le champ de l'activité physique, de l'urbanisme, la lutte contre la pauvreté. Donc c'est très, très vaste. Et donc, ces mesures... En France, on a la chance d'avoir quelques grands plans, comme le plan national nutrition santé, le PNNS, qui est porté par le ministère de la Santé, ou aussi le plan national alimentation, qui est porté par le ministère de l'Agriculture, qui sont des plans qui ont vocation à, entre autres, favoriser la production, la distribution, la consommation d'une alimentation favorable à la santé. Mais on voit bien que cette prévention, c'est une prévention assez générale, en fait, et elle va avoir un impact pas seulement sur l'obésité, mais aussi sur la prévention des autres pathologies chroniques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Donc ce sont des mesures générales qui vont, en particulier, avoir un impact sur l'obésité. Mais ces mesures, elles sont relativement simples à lister, mais elles sont quand même très compliquées à mettre en place parce que il y a des influences un peu contraires, on peut dire. Quand on touche au système alimentaire, forcément, il y a des intérêts commerciaux, et c'est bien normal, mais ces influences ne vont pas toujours dans le sens de ce qu'on voudrait pour favoriser une alimentation favorable à la santé.
Et l'exemple que vous avez à l'esprit, je l'imagine bien, c'est le Nutri-Score. Par ailleurs, on rappelle que cette année, les règles du calcul du Nutri-Score ont évolué et 30 à 40% des produits vont voir leur score changer. Vous savez, ce sont les petites vignettes A, B, C, D, E sur chacun des produits alimentaires vendus en France. Est-ce que cela, Anne-Sophie Joly, c'est un dispositif efficace ou c'est quelque chose j'allais dire, de cosmétiques.
Alors, non, c'est littéralement indispensable. D'ailleurs, il a été signé avec Yannick Neuder, ministre de la Santé, hein, avec Grégory Emery, DGS, et puis ministère de l'Agriculture. Hein, tout le monde a signé.
DGS, c'est le directeur général,
général de la Santé. Et puis effectivement, on appuie énormément le plan national nutrition santé avec le professeur Nizri, hein, qui j'espère effectivement toutes ces instances sont en évaluation pour la suite, hein, qu'on attend effectivement ardemment. Il nous faut un mode d'emploi sur l'utilisation du Nutri-Score. Il faut surtout qu'il soit obligatoire en passant par Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir que finalement ce que l'on mange, pourquoi on le mange et ce qu'il y a exactement dedans en termes de photographie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on soit, qu'on devienne ingénieur agro pour pouvoir comprendre ce qui est marqué encore 3 ou 4 sur les étiquetages des
en
boîtes.
En France, pourtant, c'est plutôt intuitif ce système.
Non, mais attendez, expliquez-moi pourquoi il y a du sucre dans les petits pois.
Ah, ça, je ne saurais pas vous expliquer, mais en tout cas, petit schéma des 5 lettres, moi, il me paraît simple à comprendre.
Il y a du sucre partout. Mm-hmm. Le sucre, c'est la drogue la plus dure au monde. Donc en fait, à un moment donné, on mange pour manger ou on mange pour consommer. Avec effectivement, au bout du compte, pour certaines personnes, déclencher des pathologies chroniques. Manger doit être un plaisir, doit être un moment sociétal, mais pas pour se retrouver avec des problèmes de santé. Donc nous, on demande de la transparence et on demande de la protection. On est en France. On a des produits régionaux qui sont excellents. Donc, je pense que maintenant, il faut coller des normes à certaines choses pour éviter que ça fasse pire que mieux, en fait.
Je vous remercie tous les trois beaucoup de ces témoignages, de ces explications, de ces éclairages. Anne-Sophie Joly, je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice du CNAO, le collectif national des associations d'obèses qui vient d'organiser les états généraux de l'obésité et de rendre un rapport consultable en ligne sur la discrimination et la stigmatisation de l'obésité. Jean-Michel Aupert, vous êtes professeur de nutrition, chef de service de nutrition à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Camille Canaple, médecin coordinatrice du REPOP LIRA, un réseau ville-hôpital dans la région lyonnaise de prise en charge d'obésité pédiatrique. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir dans Question du soir.
Et prenez soin de vous.
Merci.